13h-14h, Sport Campus avec Alain, Nicolas, Louis, présenté par Mélissa.
Bonjour à toutes et à tous, on est mercredi, il est 13h, ce qui veut dire que vous êtes à l'écoute de Sport Campus ou votre émission hebdomadaire où pendant une heure on met un sport à l'honneur et on retrouve tout de suite pour se faire la fine équipe avec Alain au top nickel, salut
top
Alain.
Top nickel, ça va.
Et puis on est aussi avec Nicolas, salut Nicolas.
Top nickel.
Et avec Louis, salut Louis.
Top nickel.
Et notre invité du jour, il s'agit de Yannick Stopira, bonjour à vous, comment allez-vous?
Bonjour, bah top nickel aussi.
Alors avant de démarrer le vif du sujet et de rentrer dans l'actualité de cette émission, tu as quelques annonces à nous faire Alain.
Oui, mes petits résultats hebdomadaires. Vous saviez qu'il y avait les championnats de France d'athlétisme ce week-end. Donc Marie-Julie Bonin qui était venue nous voir a fini 4e à la perche. Solène Comper, elle, je crois qu'elle a fait 4e aussi. Maroussia Paré, championne de France du 200 mètres. Célia Terki, notre paralympique, a fait 2e du 60 mètres. Par contre, Ryan Lacoste est premier en longueur et au 200 mètres, champion de France. Et une petite annonce, ce week-end, enfin dimanche, il y a le championnat régional de Touring Bâton à Saint-Laurent-du-Médoc. Et vous savez qu'on avait reçu la petite princesse qui d'ailleurs est championne d'Europe et qu'on va recevoir bientôt. Voilà.
Bah, on peut démarrer le vif du sujet, Alain, avec notre invité du jour.
Mais notre invité, c'est Yannick Stopira, c'est mon époque en fait. On est à peu près de la même époque, ce qui fait dire que quand il jouait, j'admirais Yannick Stopira. Alors moi j'ai gardé une image de toi, Yannick, c'est bête, c'est Sochaux. Je ne sais pas pourquoi tu portes ça, Sochaux, alors que tu ne démarres pas à Sochaux en fait.
Club
Amat. Tu démarres en Bretagne.
Oui, je démarre en Bretagne, oui. En fait, mon origine, c'est bretonne, par mes parents. J'ai une famille de footeux en fait. Je suis le quatrième à avoir porté le maillot de l'équipe de France. Il y a mon oncle, il y a mon grand-oncle, mon père. Et puis en plus, il y a une histoire, c'est que on est très attaché à la Bretagne. Pourquoi ? Parce que la famille de ma mère, originaire de Lorient, la fondatrice du football club de Lorient, c'est mon arrière-grand-mère.
Famille Goujon, c'est ça.
Famille Goujon, Cuissard, la créatrice. En fait, c'est une dame qui a gagné sa vie en vendant du poisson. Et puis un jour, il y a des pêcheurs qui sont arrivés avec un ballon. Ils disent qu'est-ce que c'est ? Ça vient d'Angleterre, ça se démarre. Et en 1926, ils ont créé un club de football. Voilà, la Marée. Et puis les couleurs orange tango, orange et noir, c'est ni plus ni moins qu'un le chemisier de la sœur de ma grand-mère. Et on m'a dit, on va prendre ces couleurs-là. Donc l'origine du club breton, le FC Lorient, c'est une partie de ma famille, oui.
Donc tu as démarré au FC Redon, tu as un stade qui porte ton nom, là-bas.
Oui, c'est extraordinaire parce qu'en fait, souvent, on attend le décès des gens. Et puis j'ai eu ce bonheur de le vivre. Alors ça fait très drôle parce qu'en fait, on revoit des gens. Moi, je suis parti à l'âge de 15 ans et je suis revenu à 62 ans. Et puis, il y a eu tout un laps de temps où je n'ai pas vu mes amis, mes proches. Et puis, c'est vrai que le stade où j'ai démarré, maintenant, il y a une plaque. Alors, ça fait drôle parce que ça fait presque mortuaire, des fois.
Alors, il y a une légende qui dit que tu aurais marqué 100 buts dans la même saison au FC Redon. C'est une légende ou c'est vrai ?
Non, ce n'est pas une légende. En fait... c'était effectivement, je marquais des 8 à 9 buts par match. J'allais très vite, j'avais compris un petit peu. Et puis bon, quand vous avez 11-12 ans, il y a des jeunes qui sont peut-être moins à l'aise qu'eux. Et moi j'avais cette qualité, j'avais la qualité de mon père. Mon père allait vite. Et puis moi je voulais marquer des buts. Et là je faisais pas de cadeaux. Quand il y en avait un, j'en voulais deux. Et quand il y en avait 8, j'en voulais 9. Voilà, et même je fais une anecdote, c'est que ma mère m'avait dit, à chaque fois que tu marqueras un but, je t'offrirai du chocolat. À un moment donné, elle a dit stop parce qu'il va devenir obèse.
Mais c'est pas bon pour les régimes. Ça
marche. Le chocolat, ça marche toujours.
Ça marche toujours. Ouais.
Et donc, là, du FC Redon, tu es repéré par le FC Sochaux-Montbéliard parce que ça s'appelait comme ça à l'époque. Hein.
En fait, j'ai 8 ou 9 clubs qui me sollicitent. La Fédération française de football avait créé les centres de formation. Et puis, j'ai eu 8 à 9 clubs qui m'ont proposé. Quand vous habitez Redon, vous êtes 50% de la ville est rennaise et 50% est nantaise.
C'est chaud, là.
Ouais, c'est chaud. Et moi, j'ai mon oncle, le grand-oncle, il était entraîneur du Stade Rennais des pros. Et puis, mon père a joué à Sochaux. Donc, il y avait Monaco. Et puis, en fait, le choix s'est porté sur Sochaux. Et mon père me voulait que je m'exporte un peu plus loin qu'à Rennes ou à Nantes. Et puis, effectivement... mais ça n'a pas été facile, les débuts. Ça n'a pas été facile.
Avant que je laisse la parole à mes acolytes, j'ai une dernière question. Quand tu arrives dans le milieu du football, 15-16 ans, les centres de formation démarrent ou il y avait déjà des centres de formation et tu es passé par les centres, là ?
En fait, ça avait démarré depuis 3 années. Et puis, moi, je suis arrivé, 3e promotion, je suis arrivé avec Bonnevet et Ruti. Et en fait, la première année, j'étais pas gardé. Ils trouvaient que j'avais pas le niveau. Et puis, il y a une anecdote qui m'a sauvé. C'est que, comme j'avais un an de retard à l'école, j'avais redoublé ma 3e, j'étais disponible et j'avais pas cours le mardi après-midi. Et l'entraîneur des pros appelle, il dit, il me faut un joueur. On va faire une opposition, il y a personne. Et moi, j'ai 15 ans. Mais quand tu me vois à 15 ans, j'ai comme si j'ai 12-13 ans physiquement. Pourquoi ? Parce que je faisais très très jeune.
Je mangeais pas assez de chocolat.
Certainement. Ou j'en avais trop mangé et après je me suis bon. Et puis donc il dit j'ai un joueur mais on va pas le garder, il a pas le niveau. Et en fait j'y vais, je frappe à la porte des pros au lieu de rentrer dans le vestiaire, on me dit rentrer. Et puis les pros, en fait il y a eu un bizutage. J'ai demandé où je mettais mes affaires, ils m'ont dit tu les mets là. C'était sous la douche. Et bien sûr, y a toujours un pro qui a appuyé sur la douche. Évidemment. Et mes affaires trempées. Et comme j'ai le respect des anciens, je ne savais même pas s'il fallait que je dise tu ou vous à ces gens-là. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui avaient 33, 34 ans. Moi, j'en avais 15. Et donc, j'ai dit ok, je vais vous dire, vous allez souffrir. et la haine, j'ai eu une haine et j'allais sur le terrain. J'ai couru, j'ai mis des coups, j'ai très vite compris.
Tu avais quel âge là ?
Moi, j'avais 15 ans, 15 ans et demi. Mais ils voulaient pas me garder. Et j'arrive, je fais un entraînement, mais là j'ai dit les gars, j'accepte.
Foi de Breton.
Le bizutage, mais vous allez souffrir. Et à la fin de l'entraînement, l'entraîneur des pros a appelé l'entraîneur du centre et m'a dit mais Pierrot, qu'est-ce que tu m'as envoyé ? Désolé, j'ai que ça. Il dit mais t'es fou quoi ? Mais moi je le veux. J'ai démarré. Un mois après, je joue en réserve, 3e division. Je marque 3 buts sur 6 et je deviens meilleur buteur la première année. Voilà, ça va très très vite. Et puis les mêmes personnes qui m'avaient viré, voulaient me virer, ils sont passés à Téléfoot en disant nous, Stopira, on a toujours vu en lui ses qualités, etc.
Bien sûr, bien sûr.
C'est hypocrite.
C'est ça.
Sochaux, est-ce qu'on peut dire aux auditeurs un peu ce que ça représentait comme club de foot ? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Sochaux, plus personne ne connaît. Ouais. Est-ce qu'on peut rappeler quand même ce que c'était ce club ?
Oui, c'est... En fait, c'est une grande famille au départ. C'est la famille Peugeot. Et d'ailleurs, cette année, j'ai échangé avec le petit-fils ou l'arrière-petit-fils. Toujours est-il que, parce qu'il fait partie de l'organigramme, il est sur l'Angleterre, mais il fait partie de l'organigramme du président Lopez, Gérard Lopez. J'ai échangé avec lui, j'étais très fier. Parce que, en fait, toute la ville, c'est Peugeot. Et nous, on a démarré. Je vais vous donner une anecdote pour vous dire les valeurs. La première année où j'intègre les professionnels, le stade d'entraînement du centre de formation, il est pratiquement dans l'usine, ou toujours est-il qu'il est à l'extérieur, mais il est à 50 mètres. Et l'entraîneur des pros dit, bon, vous montez du vestiaire, vous rentrez, vous vous changez, vous vous habillez, vous mettez short, maillot, et short, maillot, chaussettes, et vous mettez les crampons et les protège tibia. Bon, bah, très bien, on s'habille, tiens, on va faire un match, c'était pas prévu. Et vous savez ce qu'ils nous ont fait ? Ils nous ont fait, on est rentré dans l'usine, devant la porte, le bus s'est arrêté, l'entraîneur a pris la parole, il a dit, bon, vous voyez la porte ? Vous rentrez tous là, on était en tenue de match, et vous traversez. On est rentré, on a vu des gens à la chaîne. On s'est fait siffler, on s'est fait huer, feignant, trop payé, ta. Le bus nous attendait de l'autre côté. On a dû mettre 20 minutes, on a été sympa, on a essayé de dire bonjour aux gens et tout. Et l'entraîneur, il a dit, vous avez compris ? C'est pour ça que vous vous battez, pour ces gens-là. Et donc, voilà, c'était à la fois une famille, c'était les couleurs et même encore les gens, on a nostalgie. C'était un très grand club et c'est un des premiers clubs français aussi à avoir porté les... Bon, pire. Et puis, en étant jeune là-bas, on a été quand même en demi-finale Coupe d'Europe avec le centre de formation. Ça a été des grands moments, oui.
Je voulais savoir, vu que vous avez démarré justement jeune, avec toute la pression qui était autour de vous, est-ce que vous avez été galvanisé par cette pression ou c'était juste la fougue de la jeunesse ?
En fait, il y a beaucoup d'inconscience. Il y a beaucoup d'inconscience.
D'insouciance peut-être plus.
Ouais, d'insouciance plutôt, effectivement. Bon, par contre, très vite, je pense que pour réussir, bon, ça m'aide maintenant parce que maintenant j'essaie de trouver des jeunes talents. Je pense qu'il faut avoir deux points forts. Et j'ai très vite compris mes points forts. J'ai joué là-dessus. Il faut essayer de ne pas avoir de facteurs limitants. C'est-à-dire que facteur limitant, c'est des manques qui vont handicaper. Et surtout, il faut avoir une vitesse, une forme de vitesse. Alors la vitesse, ce n'est pas spécialement courir, battre le record du monde du 100 mètres. Usain Bolt, il a essayé le foot, il a vite arrêté. Et malgré que ça, c'était lui qui allait le plus vite. Il y a des joueurs qui sont très lents en vitesse, mais qui comprennent très vite. Donc il faut une notion de vitesse. Et moi, j'ai compris très vite, effectivement, que j'allais utiliser ça. J'avais une revanche aussi, et ça, c'est un grand moment, et ce qui m'a aidé beaucoup. Le fait que mon père, j'ai toujours voulu dépasser le maître, mon père, et je me suis dit, il a une sélection, j'en aurais deux. Bon, j'en ai eu 33. Il a été pro à 16 ans, je suis titulaire en pro, j'ai pas trouvé que c'était difficile. J'ai dit, ben maintenant je vais essayer. Mais mon père, il a jamais compris pourquoi j'avais fait le choix de ces clubs. Et en fait, aujourd'hui, je suis complètement. Je suis pas du tout dans le courant du football aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens jouent pour l'argent, pour les titres. Et en fait, vous regardez mon palmarès, j'ai un palmarès individuel, mais pas collectif. C'est-à-dire que je n'ai jamais été dans un club pour gagner des titres de champion. J'ai toujours été pour... Tiens, là, je suis allé là parce qu'il y avait Luis Fernandez. Là, je suis allé là parce qu'il y avait Bruno Bellone. Là, je suis allé là parce qu'il y avait un entraîneur que j'avais envie de voir.
Vous avez joué pour l'équipe, en fait.
Voilà,
pas pour...
j'avais envie. Mes notions à moi, c'était le collectif. C'était ce que Peugeot nous avait transmis. Et ça, pour moi, c'est ça le football.
Quand tu parles de Sochaux, Yannick, on associe, je l'ai dit en début d'émission, Sochaux avec Peugeot. C'est terminé cette histoire-là. C'est un consortium, je crois, chinois maintenant qui a repris. C'est quoi ton ressenti là-dessus ? Ça fait mal, non ?
Oui, ça fait mal, mais. Ça fait mal, mais il faut évoluer. Bon, moi, ce football, cette façon de. Sur ces transferts, ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup. On est très très mal à l'aise. Nous, on est, Dieu merci. C'est pour ça peut-être que je suis pas passé côté pro. Certainement, j'avais pas les capacités parce que sinon j'aurais passé mes diplômes d'entraîneur pour être les pros. J'ai voulu passer mes diplômes d'entraîneur pro. Et Aimé Jacquet, qui était mon entraîneur au Girondin, m'a dit Yannick, tu veux faire quoi ? Je le regarde très surpris. Je lui dis mais entraîneur des pros. Il n'y avait que ça que je connaissais. Et il me dit « T'es fait pour ça ?» Je ne sais pas. Et écoute, visite le football, visite le paysage du football français, tu ne connais pas. Et j'ai travaillé sur les jeunes, mais j'ai dit « Ouais, c'est ça que je veux faire. » C'est-à-dire que quand j'ai travaillé pendant 10 ans avec des 13, 14, 15 ans, j'ai eu Rabiot, je l'ai eu à 14 ans. Quand tu leur dis quelque chose, ils t'écoutent. Aujourd'hui, ce monde d'adultes est différent. Et même arrivé à 17-18 ans, ce sont des autres, ce sont pas les jeunes qu'on a connus à 13-14 ans.
Je dis beaucoup qu'éducateur, formateur et entraîneur, c'est deux mondes tout à fait différents. Et quand on me dit, quand j'entends dire dans certaines équipes pro, je vais pas dire les noms, mais bon, on prend cet entraîneur parce que c'est un éducateur et un formateur. Moi, je dis non, pas dans les milieux pro. Tu peux pas être éducateur, formateur et entraîneur.
Moi, je crois que, très simple, moi, je la vois comme ça, là, l'histoire. C'est que la plupart sont passés par des clubs de formateurs. Et ils ont été dans la formation. Et ils se sont des formateurs. Et ils se plaignent. Ah, mais les jeunes joueurs ne jouent pas assez au-dessus. Ouais. Et quand ils passent chez les pros, ces mêmes entraîneurs ne mettent plus de jeunes. Pourquoi ? Parce qu'il y a la sanction. Si tu fais 10 matchs sans gagner, t'es viré. Donc, si tu veux, il y a une autre notion. Et je crois que c'est deux mondes qui est quand même difficile à associer, le monde professionnel et la formation.
C'est devenu une machine, quoi, en fait. On le voit au niveau de certaines équipes où tu prends même les réserves. Tu prends l'équipe B et malheureusement, on te dit oui, mais ces jeunes, ils ont le talent, ils peuvent monter en pro et tout. Mais comment ils peuvent avoir le talent et être montés en pro quand l'équipe B, elle se traîne en 7 ou 8e position?
Moi, je me rappelle à Sochaux, il y avait des amateurs qui travaillaient à l'usine. Des bons joueurs, des très très bons joueurs, parce qu'en plus ils profitaient d'avoir des qualités de footballeur pour pouvoir avoir des promotions au sein de l'entreprise. Donc ça c'était bien. Et puis on avait les jeunes, moi j'avais 16 ans, j'étais le plus jeune, en jouant en réserve. Il y a Gengini, il avait 18-19 ans, Joël Batt, il avait pareil 18-19 ans, et on était champion de France, 3e division, c'est l'époque, c'est pratiquement l'équivalence de l'équipe nationale, et on est arrivé, on était pratiquement au bord de la descente, et on est tous arrivés, on est arrivé à 12 dans le vestiaire, il y en a 9 qui ont joué. Et on a gagné 4-1, on a gagné contre Laval, on a gagné 1 ou 2-0, 3-0 contre Lyon, et on a sauvé le club. Le club n'est pas descendu, et puis l'année d'après, on finit second du championnat ou troisième, et on fait on fait la Coupe UEFA, et on fait une demi-finale. Donc la formation, elle est possible, mais il faut qu'à côté de ça, il faut avoir la possibilité de jouer à un haut niveau pour pouvoir profiter des qualités des jeunes.
Mais là, tu reparles d'une époque, il y a 30 ans. Bon, il y a 30 ans, ça, un joueur qui était bon, il pouvait encore s'exprimer. Maintenant, je parle d'un jeune. Maintenant, c'est compliqué parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des contrats d'abord. On sait très bien qu'il y a des pros il faut les faire jouer parce qu'il y a des gros contrats et à valeur on va dire égale ou moindre, on va faire jouer le pro. Et moi, je me mets à la place de l'entraîneur qui, comme tu as dit tout à l'heure, il a cette pression, il perd 10 matchs, il saute. Donc, est-ce que je dois faire jouer des jeunes qui ont des qualités, mais qui malheureusement vont peut-être pas pouvoir s'exprimer dans le milieu pro, ou faire jouer des pros qui... C'est pour ça que je dis que la formation, être formateur maintenant, c'est un vrai métier à part.
Oui, c'est complètement différent. Maintenant, chacun, il y a de la place pour tout le monde. Et je pense aussi qu'il y a une autre notion, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure de Sochaux, il y a le respect du club. Moi, je suis allé dans les clubs. Moi, Bordeaux, ça fait des années que je voulais y aller. En fait, je suis allé au Stade Rennais parce que Bordeaux a fait re-signer Bernard Lacombe. On est en négociation pour que j'arrive. Et quand on m'a dit, ben non... tout compté, on va pas te prendre. À l'époque, c'était je crois que c'était en 81, 82. Je me retrouve, je me dis mince, qu'est-ce que je fais ? Je m'étais engagé, il me restait un an de contrat à Sochaux. Et je me suis dit, je suis allé au Stade Rennais parce que j'avais envie de porter ce maillot-là. Et voilà, je pense qu'il y a cet amour du maillot qu'il faut avoir aussi et qui se perd un peu.
On disait que tout à l'heure, justement, pour revenir sur Sochaux et cette ambiance, ce club qui peut être apparenté à un club familial, est-ce qu'aujourd'hui, dans le football moderne, il y a un club qui pourrait se rapprocher de ça ou ça existe complètement plus, quoi, ça existe plus ?
Après, au niveau international, s'il y a un club vraiment que je trouve qui est vraiment aujourd'hui respect, c'est peut-être le Bayern de Munich qui garde leurs joueurs, leurs anciens joueurs, et qu'à voir l'ossature, et ils se donnent ces valeurs-là. On les élimine pas du club, au contraire. ils amènent ce qu'ils aiment dans le football. Toutes les valeurs qu'ils ont données sur le terrain, ben, ils les amènent en tant que dirigeants. Et je pense que le Bayern de Munich, c'est toujours... Alors, bien sûr, ils sont un club moderne, ça fait partie des 3-4 meilleurs qui peuvent gagner, comme le Real Madrid, mais... Ils gardent ces valeurs-là, je trouve, mais tout en achetant des joueurs aussi qui coûtent très cher. Et je pense qu'on peut associer. Voilà. Pour moi, ça serait le Bayern.
Mais le Bayern a un avantage, c'est que si tu regardes l'organigramme, qu'il soit dans les bureaux ou dans la formation, ce sont des anciens joueurs du Bayern pour les trois quarts. Ils ont gardé la flamme du Bayern. Malheureusement, je ne sais pas si on culture bien ça en France, on prend ce qui vient et on sait qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs qui aimeraient bien intégrer des clubs qu'ils ont dans le sang et qui ne peuvent pas le faire. Oui,
il y a cette transmission qui est importante. Bon, moi j'ai cette chance de... Moi je travaille avec Patrick Battiston, c'est mon boss, c'est le directeur du centre. Il transmet tout ça. Sa façon de gérer tout ça, des fois on trouve parce qu'il fait pas de bruit.
Non, c'est pas un causeux.
Non, c'est quelqu'un qui est dans l'humain, voilà, qui est dans le respect et qui délègue, mais il contrôle tout, il voit tout. Et des fois c'est vrai, on n'en parle pas assez, mais voilà, je côtoie aussi Marius Trésor que vous avez invité il n'y a pas longtemps, et quand il y a un père de famille qui vient, qui voit Marius Trésor et Patrick Battiston, les gens ils tremblent, des fois certains. Voilà, alors bon, je vais pas leur faire des fleurs aussi, je vais leur dire qu'aussi c'est plutôt les grands-mères et les grands-pères, hein, qui se rappellent d'eux, mais c'est important. Non, c'est je plaisante.
Pas Marius quand même.
Non,
quand même pas, je m'en souviens très bien de Marius Trésor.
Non, c'est important d'avoir des valeurs comme ça.
On va reparler un petit peu de ta carrière. Donc t'es à Sochaux et tu pars à Toulouse, c'est ça?
Non, je pars
à Rennes. Non,
je pars au Stade Rennais.
Mais par défaut. Par défaut.
Par défaut. Ouais.
Par défaut.
Et puis je fais une saison difficile. C'est difficile. Il passe d'un titre de champion de deuxième division à une première division où les résultats sont pas là. Alors c'est d'autant plus difficile que moi je suis pas frontalier. Je suis carrément dedans. C'est-à-dire que j'habite à 70 km de Rennes. Mes parents sont là.
C'est toi qui as toute la pression. T'es l'enfant du pays.
Ouais, mais pendant 3-4 mois j'étais en avion. Je courais partout. Et puis au fur et à mesure, le doute, la non-réussite, je crois que cette année-là, j'ai dû toucher 10 ou 12 poteaux. J'ai loupé un ou deux pénaltys importants. Voilà, ça a été... quand tu doutes, à un moment donné... voilà. Mais justement, ce qui est hyper important dans une carrière, tu montes pas comme ça. Tu montes, tu descends. Des fois, tu descends très bas.
C'est ce qu'il faut gérer.
Et en fait, le bas, pour certains, il est jamais atteint. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond. On pense qu'on arrive au fond, non. Tu peux vraiment couler. Et donc, c'est au moment où tu remontes, c'est là que tu progresses le plus. Et j'ai eu l'opportunité d'un transfert à Toulouse. Et là, j'ai trouvé une ambiance du sud-ouest.
Tu voulais te rapprocher de la Garonne. Tu avais Bordeaux dans le viseur et tu t'es dit, bon, c'est pas trop loin.
Oui, oui. Ouais. Et puis... bon, j'avais le sentiment que, tu vois, quand mes qualités, c'était plus quand Nougaro chante, quand il chante Toulouse, il dit quoi? Il dit qu'ici, même les mamies aiment la castagne. Voilà. Et en fait, moi, j'allais sur un terrain, c'était la castagne. Moi, j'y allais pour me battre.
Il n'y avait pas que des poètes, en plus, à Toulouse, à l'époque.
Ah non. Et les défenseurs, parce attention.
Parce qu'il y a Nembeto Marsico, c'était pas...
les défenseurs, aujourd'hui, quand ils te marquaient, les arbitres, il n'y avait pas de VAR, et ils te mettaient, c'était l'intimidation. Donc, on a été élevés comme ça. Donc, c'était... Ouais, et puis Toulouse, ça a été... voilà, j'ai eu l'opportunité de jouer avec Marsico, Tarantini, on a éliminé Naples avec Maradona, il y a eu plein de choses comme ça. Des moments très forts. Et puis le public, on a adhéré. Et moi, j'ai besoin de sentir.
Il y avait Bergerot, non, à l'époque?
Oui, il y a Philippe Bergerot. Et puis Domergue, qui était aussi bordelais.
Rudy, non.
Ruti plus tard, oui. Mais j'ai joué aussi là-bas.
Plus tard. Ouais, ouais. Mais tout à l'heure, tu as dit, j'ai touché, je ne sais plus combien de poteaux, c'était les poteaux carrés ou ronds à l'époque
C'était effectivement, c'était, je crois que c'était carré. Hein.
Et ouais, tu avais encore plus la guigne, quoi. Parce que ronds, peut-être, ils auraient pu faire poteau rentrant. Et donc, à Toulouse, tu fais une belle carrière là-bas. En fait, tu passes ça se passe bien, quoi.
Ouais, ça se passe très bien.
C'est là que tu intègres l'équipe de France ou c'est à Rennes?
Non, c'est à Sochaux. En fait,
depuis Sochaux, tu étais.
Ah ouais, depuis. J'ai joué dans toutes les équipes de France, c'est-à-dire, même à l'époque, il y en a une qui n'existe plus, à 14 ans.
Les Espoirs.
À 14 ans, j'ai joué à Wembley, devant 60 000 spectateurs, j'étais remplaçant, je jouais pas. J'ai vu ça, 60 000, à Redon, moi je passe de Redon où j'ai...
à Wembley, ah ouais, la grosse différence.
À Wembley, télévisé dans toutes les îles britanniques. Tu te dis,
c'était avec quelle équipe de France là?
Les 14 ans qui n'existent plus.
Nationaux, enfin, ouais. L'équipe de France. Ouais. Ah oui, d'accord.
Ouais. Et il y avait Hidalgo qui a géré cette équipe-là au tout début, Michel Hidalgo, mais c'était pas lui à cette époque-là. Et là, il y avait, nous, on avait une équipe de fous. Vraiment, on avait une très grosse équipe. Il y avait des José Touré. La plupart, ils ont Bucher. C'est tous des garçons qui ont joué en pro. Mais en face,
Rust était avant.
Oh oui, c'est plus avant. Vieux. Ouais. Ouais, c'est plus vieux. Et donc, et puis l'équipe de France, c'est vrai que j'ai été en équipe de France à l'âge de 19 ans.
Donc, voilà. Quand on entend dire que la formation française, en fait, elle est récente, la bonne formation française, c'est faux, parce que quand je t'écoute parler, tu avais 14 ans, il y avait déjà une bonne formation.
Oui, mais il y a des choses, après, avec le recul, il y a des choses qui tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner. Nous, on nous disait... Quand on est à 14-15 ans, on nous donne et on nous dit le respect. Ok. Mais les Italiens, tu joues les Italiens, les Anglais, les Allemands, ils ont le respect quand? Quand ils gagnent.
Ils n'en ont pas rien à faire du respect sur le match.
Exactement. Et quand ils perdent, les mecs, ils n'ont pas le respect. Bon, nous, on avait le respect. Très bien. Et puis, et on disait, le baron...
Question de temps par respect.
Ben, justement, c'est la phrase que je vais te donner. On te donne une autre phrase derrière. On te dit, le baron de Coubertin, il a dit quoi?
L'essentiel, c'est de participer.
Et ouais, ben on participait. Mais il ne te dit pas de gagner.
Et vos entraîneurs de l'époque, vous...
Mais oui, mais c'était ça, c'était le respect, les gars. On se serre la main, ouais.
Mais qu'il n'y avait pas cette notion de la gagne, en fait.
Non, c'était pas... Mais, et heureusement qu'il y a il y a Michel Platini, c'était le seul qui est parti à l'étranger. Il a découvert ça.
Il a ramené la culture. Quoi.
Déjà, il avait ça en lui, dans les tripes et tout. Moi, à Sochaux, moi, j'étais irrespectueux sur le terrain. Mais moi, j'avais pas de respect. J'aurais joué contre mon père, j'aurais joué contre mon fils.
C'est pas un manque de respect, c'est imposé sur un terrain.
Exactement.
Un manque de respect, c'est quand le gars, tu vas lui cracher dessus. Ouais, c'est un manque de respect.
Et donc, nous, on a été élevés comme ça, avec certaines valeurs qui, au niveau... Quand j'écoute Mbappé, aujourd'hui, quand il est sur le terrain, il veut tout gagner.
Mais c'est ça, pas un manque de respect.
Mais après, on nous disait, ouais, mais t'as la grosse tête, après, t'as ci, t'as ça. Et quand tu dis trop de choses sur ton comportement, un air de dire, moi, je veux être le meilleur joueur. Si tu dis, par exemple, je veux être le meilleur buteur français, on va te dire... Oh,
t'as la grosse tête.
Mais t'as la grosse tête.
Non, mais surtout, si jamais on ne prouve pas ça par des faits sur le terrain, forcément, ça va nous retomber dessus derrière.
Exactement.
En fait.
Mais moi, je coach à plus petit niveau et je gagne 4-5-0. Je demande à mes gars de continuer à en donner parce que c'est ça le respect.
Ah bah oui.
Mais c'est pas un manque de respect.
Non.
Et comme tu dis à l'époque, je crois qu'il y avait ce manque de culture de la gagne et on l'a découvert quand l'Europe s'est un petit peu étalée, que les joueurs sont partis un petit peu à droite et à gauche.
Ce qui a fait du bien, c'est ces promotions 84, 86, 82. On a fait une demi-finale Coupe du Monde, bon, troisième de la Coupe du Monde, mais on est champion d'Europe 84. Et ça on a dit les Français peuvent.
C'était Hidalgo, là, c'est ça?
Ouais. 84, ouais. 86, c'est Henri Michel.
Henri Michel, ouais.
Et là, on a dit, mais ouais, le Français, il peut gagner.
Oui, mais ça.
Campus Bordeaux 88.1.
Radio Sunda 88.1.
Il est 13h30, ce qui veut dire qu'on arrive à la mi-temps de l'émission. On va faire une petite pause musicale tout de suite avec le titre Affrontement de Maxime Dangle et on revient juste après avec vous, Yannick Stopira.
Thank you. Campus Bordeaux. Campus Bordeaux. Campus Bordeaux.
88,1.
Campus Bordeaux.
Campus Bordeaux. 88,1.
13h33, on est toujours en direct sur le 88.1 et vous écoutez Sport Campus. On est toujours avec notre invité du jour, Yannick Stopira, et on avait encore plein de questions à lui poser, n'est-ce pas Alain?
Oui Yannick, on dit que les grandes victoires en principe ça va te porter au firmament du foot, et toi tu as une grande victoire qui à mon avis va te porter tort, c'est quand vous battez le Naples de Maradona je crois. Tu dois partir au Matra Racing de Lagardère et il te fait un pont d'or, et en fait Toulouse t'interdit de partir, c'est ça?
Oui, après le Mexique... j'atterris donc à Paris, et au lieu de rentrer directement à la maison, je dois être reçu par monsieur Lagardère, le patron de Matra, et il me dit bon voilà, on souhaiterait, et il voulait faire un transfert, et le club de Toulouse comme on jouait la Coupe d'Europe à un moment donné, il y a dans les journaux après le match de Coupe d'Europe, Naples, logiquement avec Maradona, meilleur joueur de la planète, devrait sortir le TFC. Et puis, Stopira risque d'être transféré au Matra. Et puis, je marque le but. On arrive aux prolongations. On arrive au penalty. Et je tire le premier penalty. Autant au Mexique, j'ai tiré celui de France-Brésil, le premier. Je l'ai marqué, j'étais sûr. Que là, je me mets dans un état, mais je me condamne à mort. Je me dis, mais Yannick, tu vas tirer le premier. Si tu loupes, ils vont croire dans les tribunes que tu as fait exprès de louper pour pouvoir partir au Matra. Je loupe, dans ces cas-là, quand le mental ne suit pas. Et effectivement...
Tu bégayes du pied, comme on dit.
Ouais. Et puis, et donc automatiquement, derrière, Diego Maradona loupe. Et puis, alors là, c'était la fête.
C'est toi qui lui as mis la pression, quoi, en fait. Ouais, il s'est dit, lui, il a loupé, je ne peux pas le louper, moi.
Je pense que lui, il avait jamais de pression.
Mais j'ai lu dans un article que Maradona vous avez dit « Hola, Yannick ».
Ouais,
alors, est-ce que vous pouvez nous...
Ouais, c'est anecdotique. Mais en fait, je l'ai dit dans ce sens-là. Moi, j'ai toujours été un admirateur de joueurs de football. Je pouvais jouer avec Michel Platini. Mais j'étais admiratif. Je jouais avec Zizou. Encore que Zidane, c'est encore différent parce qu'au départ, il était jeune du centre de formation.
Vous avez joué au tout
début, ouais. Et d'ailleurs, on est quatre joueurs. C'est une anecdote qui est importante, je trouve. On est quatre joueurs à avoir joué avec les deux, Platini et Zidane. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont joué avec l'un ou l'autre, mais jamais les deux.
Ouais.
Bon, voilà. Et donc je suis très admiratif. Et puis, je suis quoi ? Normalement, je ne dois pas faire le Mondial 86. Pour moi, c'est José Touré. Il se blesse gravement. Et puis, j'entends mon nom arrive. Alors déjà, 82, je suis dans la liste des 40.
Il est à Bordeaux, Touré, à l'époque ?
Non.
Non, il est à Nantes. Il est à Nantes.
C'était un joueur exceptionnel. Ouais, ouais. Vraiment un des tout meilleurs.
C'est sa vie qui l'a détruit un petit peu.
Ouais, un petit peu, et il a été gravement blessé. Donc en 82, je fais les stages en altitude, mais je ne suis pas dans la liste des 22. En 84, et le titre de champion d'Europe, je vais en altitude. Moi, je ne fais que les vacances, mais avec eux, mais je n'étais pas dans le groupe, une fois de plus. 86, je me dis jamais 203. Je suis le dernier, l'avant-dernier joueur. Derrière moi, il y a Xuereb avec la lettre X. Et moi, c'est Stopira S. Et il me cite. Donc ça, c'est la grande fête. Donc déjà, moi, le match amico, je suis dans la tribune. Je ne joue pas. Je les vois jouer et tout. Je suis comme un coiffeur. C'est de là est venu les coiffeurs. Et donc, c'est vrai que Diego Maradona, moi, je le vois comme un extraterrestre.
Un Yeti.
Et quand vous voyez ce joueur prendre un ballon, et aujourd'hui, tout le monde joue sur des belles pelouses, mais lui, sur un terrain vague, il prenait le ballon, il s'amusait, mais c'est un artiste. Et alors, bien sûr, je le vois, et on n'avait pas les téléphones portables, mais j'aurais eu le téléphone portable, j'aurais fait peut-être un selfie avec lui.
Ah bah oui.
Mais tu peux pas, parce que tu joues contre lui, tu veux le battre. Si tu, en plus, tu fais un selfie, comme certains font avant le match, mais tu es en position d'infériorité. Et là, je passe, en espérant pouvoir lui parler, lui dire bonjour. Et puis Alberto, Tarantini, c'est son ami, et c'est mon ami. Et à un moment donné, je passe près de Diego Maradona et il me dit gentiment « Hola Yannick ». Putain, mais alors là, Je me suis dit, c'est pas possible.
Il me connaît.
Il m'a reconnu.
Il connaît mon prénom.
Voilà. Voilà. Donc, pour moi, c'était peut-être. C'est comme si j'avais marqué.
Et les gens disaient, mais qui c'est qui a à côté le Stopira?
C'est comme si j'avais marqué 9 ou 10 buts quand j'avais 12-13 ans.
Ouais, ouais Louis.
C'est difficile de mettre son admiration de côté en plein match?
Non. Un jour, il y a mon beau-frère qui jouait au LOSC en pro. Ma sœur, elle me dit, tu sais Yannick, Doudou, il a pas envie de jouer contre toi. Bah, à votre avis, j'ai joué où? J'ai joué chez mon beau-frère. J'ai joué sur son côté pour le mettre en difficulté. Et à la fin, bah, on s'embrasse et tout. Non, à partir du moment... Et c'est ça que je dis aux jeunes. Ça aussi, c'est des choses qu'on essaye de transmettre. Moi, j'étais quelqu'un de très timide, réservé. On m'appelait au tableau, je rougissais. On rigolait de moi parce que je ne savais pas chanter. J'ai pas ton talent. Voilà. J'étais très timide, réservé. Et le football, j'arrivais mais à transcender toute cette agressivité que j'avais en moi. Je la mettais là. Mais j'étais méchant. Parce que même à l'entraînement, il y a deux joueurs qui m'ont dit « Tu as vu mon nez ?» J'ai dit « Ouais, il a un angle droit. » Il dit « Ouais, c'est toi qui me l'as pété à l'entraînement. » Bah ouais, mais bon, c'était comme ça.
C'était les vraies fautes. Hein.
Ouais, c'était sympa. Hein.
Ouais, ouais, mais ça faisait partie de... C'était partie du monde, ouais. Et puis, voilà, j'ai... Je sais pas si je suis dans la question...
Non, si.
Yannick, il y a une chose qu'on est obligé de te parler. Tu nous parles de la Coupe du Monde 86 parce que, à la base, tu pars pas en haut de l'échelle, t'es
non,
en bas. Je crois que t'avais Rocheteau, t'avais Papin.
Ouais. Jean-Pierre Papin qui venait de signer à l'Olympique de Marseille.
Et en fait, tu te retrouves titulaire, tu vas jouer un coup avec un coup avec l'autre. Tu peux nous raconter un petit peu ce truc-là?
Ouais, mais. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il faut que je sois provoqué. À chaque fois que je suis provoqué, je suis dangereux. Et je vais chercher là où je dois aller. Et. Par exemple, je suis dans la tribune. Ok. Et je vais raconter une anecdote. J'en peux plus. Je suis au Mexique, j'en peux plus. Bon, quand on ne te calcule pas, que tu es là, tu n'as jamais la presse qui te demande si. Ah oui, le local de temps en temps, il te demande si tu as bien dormi.
Oui, parce que la personne a chopé, donc.
C'est ça. Donc, bon. Et puis, un soir, je descends. Il y avait un bar. Je descends au Mexique, au bar. Et je dis, tequila.
Non.
Je suis tout seul en survêtement. Et là, tu imagines le bar, t'as une grande vitre. Putain, je regarde l'escalier, waouh! Je vois 6-7 survêtements qui descendent les escaliers d'équipe de France, qui descendaient. C'était Henri Michel, l'entraîneur adjoint, le kiné, le docteur, le médecin, il y avait tout le staff. Et moi, je suis avec mon verre de tequila. En face du barman.
Oh, l'ambiance.
Ah ouais, non, mais c'est... Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'entourent. Oh, ils s'assoient là. Et là, je... Ça va? Non, ça va pas. Ben oui, je vois que ça va pas. Et Henri Michel commence à parler. Je prends mon verre. Je bois, je me lève. Où tu vas? Je vais me coucher. C'est pas ma place. Assieds-toi. Tequila. Henri Michel, il a demandé un verre de tequila. Qu'est-ce qu'il me fait là? Et là, alors je me suis lâché, j'ai parlé, j'étais bien. Le lendemain, séance d'entraînement, j'étais devant. Mais j'ai tout arraché. À un moment donné, il a compris que c'était difficile pour moi. Et alors, c'est pas le verre de tequila. Les gens, ils vont dire un verre de tequila, stopira, et puis c'est bon. Mais il a compris. Il a compris que c'était difficile. Il m'a parlé, etc. Et pour lui, je me suis battu.
Et c'était un bon mec, Henri Michel.
Hein. Exceptionnel. C'était un talent. C'était un des plus grands joueurs qu'on ait eu, et humainement. Et en plus, il y a une deuxième chose, c'est que Michel Platini, on lui dit, il y a un journaliste qui me dit, Yannick, qu'est-ce que ça te fait? Quand Michel, il préfère jouer avec Jean-Pierre Papin qu'avec toi. Donc moi, je dis, qu'est-ce que tu veux quand le bon Dieu pense ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais comme j'ai le truc de dire les choses, je ne mens pas, je vais dire les choses. Alors, des fois, je me prends des revers. Je dis, Michel, j'ai quelque chose à te dire. Ça ne m'a pas plu. Je suis désolé, moi, je veux quoi? Je veux marquer un but à la Coupe du Monde pour que mon nom soit inscrit pour mes arrière-petits-enfants. Et je suis rentré, donc Michel était à choper le journaliste, tout ça. Je suis rentré, j'ai dit ok, j'ai lu un bouquin, Les pensées positives. Il s'appelle Joseph Murphy, j'ai lu sur les pensées positives. Dan Millman, c'est un gars qui faisait du trampoline, qui a écrit un livre. J'ai tout stabiloté, parce que là-bas, il n'y avait pas la télé à l'époque, il n'y avait pas les téléphones, il fallait lire. Et j'avais ces deux bouquins, je les ai lus positivement. Et en fait, pendant tout le mondial, je fermais les yeux, je me dis, Yannick, tu seras le meilleur attaquant de la Coupe du Monde. Je me voyais jouer le Brésil, acclamé, porté par la foule, et je les vivais. Et il disait, essayez de ressentir les choses avant. J'ai fait ces pensées positives, et ça a marché. Je suis passé de la tribune, sur le banc, je suis rentré.
Titulaire.
Et parmi les trois.
Et dans l'équipe type.
Et l'équipe type du mondial. J'avais même le Barça, qui est le président, il avait dit. Il m'avait mis dans l'équipe type de voilà, donc ouais, c'est des trucs de dingue.
Mais quand toi t'écoutes parler, Yannick, il y a quand même quelque chose qui cloche. T'as un parcours, on va dire, de star, de haut niveau, et tu as jamais franchi le cap de l'étranger. C'est toi qui l'as pas voulu, ou comme t'as dit tout à l'heure, ouais. tu prenais le foot comme une passion, tu vivais de ta passion.
Il y a un match, je suis à Sochaux, il y a un match, on joue Saint-Etienne, la grande équipe de Saint-Etienne, Kurkovic, les fameux poteaux et tout, avec Santini. Santini me marque défenseur central. Il y a Michel Platini qui joue dans l'équipe, et dans les tribunes, il y a un entraîneur qui s'appelle Jop Heynckes. Jop Heynckes, c'est l'entraîneur de Mönchengladbach. Il joue en Coupe d'Europe. Il sort du stade, il dit, mais lui là, il vient chez moi. Il vient chez moi. Ils m'ont harcelé de fax. De fax, c'était des fax qui arrivaient au club. Ils voulaient absolument. Bon, j'avais pas fait l'armée, puis je voulais pas aller en Allemagne. Après, il est allé au Bayern de Munich. Il a tout fait pour que je vienne au Bayern, et j'ai dit non, je voulais pas. J'avais pas envie. J'avais pas envie d'aller.
Manque d'ambition ou ça t'allait bien comme ça?
Non, tu sais quoi, en fait, j'étais capable de m'adapter. J'aurais joué dans une très grande équipe. J'aurais été au niveau.
Et aujourd'hui, des regrets, des remords sur ça?
Ouais, j'ai des regrets. Puis surtout, si tu veux, c'est les titres. C'est les titres.
Parce qu'en fait, il n'y a pas de titres.
Non. J'ai jamais cherché à avoir une équipe pour être un titre. Si l'année où vraiment on a une grosse équipe, c'est au Girondins de Bordeaux. On a Cantona, on a Tigana, on a une très grosse équipe. Mais la sauce, elle ne prend pas. C'est pas spécialement un joueur ou deux. Il y a des choses comme ça. Aujourd'hui, le Barça n'est plus le Barça qui avait Messi.
Ça marche un peu moins bien. Ouais.
Ça marche moins bien.
Mais tu sais, t'as les joueurs qui ont un titre par-ci par-là et qui n'ont pas eu ta carrière.
Ouais, mais moi, je suis très. Le principal dans la vie, c'est quoi? C'est d'être satisfait de ce qu'on a fait.
De vivre ta passion.
Moi je suis très heureux. J'ai pas les titres, mais j'ai pris le plaisir. Puis en plus, Diego Maradona qui va dire, tu peux dormir. Hein.
Mais aujourd'hui, Yannick Stopira, parce qu'on va parler un petit peu de toi, tes fonctions au sein des Girondins de Bordeaux, c'est quoi en fait?
En fait, moi je recrute tous les mineurs, tous les joueurs qui sont non professionnels.
Tu vas les chercher ou on te les envoie et tu décides?
Oui, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe et tu vois, il y a des observateurs, des recruteurs avec qui j'ai travaillé, ils calculaient par exemple, moi j'ai fait tel joueur, il a rien fait du tout, moi j'ai rien fait du tout, c'est un ensemble, c'est une équipe.
Mais on entend beaucoup ça. Hein.
Mais oui, mais les gens disent, bah oui, bien sûr, symboliquement, à un moment donné on dit, Stopira il a fait un tel joueur, ouais. Bon, ben oui, parce qu'à un moment donné, t'es le responsable, c'est toi qui fais les négociations, etc. Mais avant tout ça, il y a tout un travail, il y a des gens qui vont voir le gamin, qui font des rapports. Il y a déjà un rapport. Je vais te donner une anecdote. Il y a une personne que j'ai le plus grand respect, elle s'appelle Fatia. Fatia, elle nous a quittés avec le plan social au club. Elle a pris sa retraite. C'est une dame, elle... Eh bien, elle m'a réussi. Elle est capable de me faire capoter un transfert. Enfin, pas un transfert, mais une signature d'un jeune. Il suffit que tu amènes ton enfant. La maman, elle voit au moment que le petit en serre, Fatia a dit, bon attention, hein, elle parle mal aux petits. Tu crois que je vais faire
signer. Les parents ce soir.
C'est un ensemble. C'est-à-dire que effectivement, Stopira, il a fait un joueur, mais c'est pas moi qui l'ai fait spécialement. Il y a derrière moi, il y a plein de choses. On va pas les citer tous.
Voilà. Il y a beaucoup de travail qui s'est pas forcément montré.
Exactement.
On voit juste à la fin, voilà. Il a été signé par un tel. On voit pas.
Il y a des gens qui ont été vexés parce que moi, à un moment donné, on m'a dit un tel a fait ça. J'ai dit non. C'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait pourquoi ? C'est pas pour la gloriole, je m'en fiche. C'était pour faire comprendre qu'en fait, c'est un ensemble. Voilà, c'est un ensemble. Mbappé, il est venu, on a fait une proposition, je ne l'ai pas fait. C'est moi qui l'ai loupé alors. Voilà, c'est le système.
Moi, je me souviens, je coachais les 15 ans de Lyon Saint-Bruno, je me rappelle Laurent Batles qui était recruteur pour Sochaux, d'ailleurs, je crois.
Ouais.
C'est ça,
c'est ça.
Pour Sochaux. Ouais. Il vient me voir et il me dit, c'est vous qui vous occupez des jeunes ? Il dit, oui, il me dit, votre 5, là, c'était un grand black, Clédave, il s'appelait. Il a été au Girondin, d'ailleurs, après. Et il me dit, il m'intéresse, patati patata. Donc, il y avait son papa, et je me parle au père. Il a demandé des choses. D'abord, il aurait dû aller voir le père avant de venir à moi. Et son père, il me dit, c'est hors de question. Peut-être que ou lui a été mauvais dans sa façon d'aborder la chose, ou moi j'ai été mauvais en refusant. Peut-être qu'il aurait pu être pro. À l'arrivée, il n'a jamais été pro. Donc c'est tout un cheminement pour arriver.
Ouais. Mais c'est tout un cheminement, puis c'est une gymnastique intellectuelle, parce qu'en fait, tout le monde est capable de voir aujourd'hui le meilleur gamin, celui qui va marquer 4 ou 5 buts dans le match. Tout le monde l'a vu. C'est pas comme ça qu'on doit voir.
Est-ce que c'est forcément le meilleur ? C'est surtout ça la question.
C'est surtout.
Oui, puis à l'instant T.
C'est sûr. Voilà. C'est surtout que moi, quand je vois les gamins, j'ai été formé par notamment à la fédération, à travers les depuis l'âge de 33 ans, je travaille là-dessus. Moi, je les vois, mais pas à 13-14 ans. Je les vois à 18-19 ans, me disant.
Ils sont déjà formés.
Ouais.
Quoi.
Ouais. Et techniquement, on est capable de voir. L'intelligence qui est importante, on est capable de voir.
Le comportement.
Comportement, donc les qualités athlétiques, ça, on est capable. On est capable de savoir s'il sera grand, on regarde les parents et tout. Sauf si il m'est arrivé une anecdote, moi je ne la dirai pas parce que. Bon, pour la taille, il faut faire attention.
Oui, il y a un grand joueur à Bordeaux qui n'a jamais été pris par rapport à sa taille.
Ouais, ouais.
Il s'appelait Mathieu.
Et puis, donc, on regarde tout ça, mais il y a une chose qu'on ne connaît pas. À 18-19 ans, le mental.
Oui,
c'est-à-dire que moi, j'ai fait des statistiques sur 150 joueurs depuis 10 ans, les meilleurs. Ben, les meilleurs, ils étaient tous internationaux, U17, U18, U16. Ils étaient dans les sélections.
Et après, ils ne passent plus la barrière.
Ben, ils sont en National 2, en National 3, ils ne passent pas. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur là. Et les caractéristiques des joueurs d'ici... C'est justement la différence avec Paris, c'est qu'à Paris, ils sont prêts. C'est la gagne, c'est les quartiers, c'est toutes les équipes se valent. Et nous, par contre, il y a un ou deux joueurs, de temps en temps, qui peuvent sortir à 17-18 ans parce que, voilà, et la vie est agréable et ils commencent à avoir la maturité. Et c'est peut-être là sur lequel les Girondins, il faut qu'on s'oriente aussi.
Il y a un sujet sur lequel j'aimerais venir, Yannick, c'est on a reçu à cette antenne-là Brice Colonas qui s'occupe de l'association Les Arbitres contre le cancer. Tu as été atteint de cette maladie ?
Oui.
Tu en es guéri, là ?
Ça y est. Enfin, on espère toujours être guéri. Mais ça fait 3 ans, donc c'est le cap. J'ai passé le cap et c'est plutôt positif. Ouais.
Quand on est sportif de haut niveau, qu'on est suivi, qu'on vit physiquement bien, qu'il nous arrive ça sur la tête, ça se passe comment ?
En fait, moi je suis arrivé, mon épouse me dit « Yannick va faire des tests ». J'y suis allé faire les tests. Et puis je suis tout seul. Et le gars il me dit « Bon, je vais vous dire quelque chose, à 97%... je ne sais plus où je suis garé, je m'en vais là, je suis perdu. Je suis complètement perdu. » Et en fait, donc il y a ça, il y a des gens extraordinaires qui sont derrière nous. Et on parle souvent du malade, tu vois, ça c'est vrai. Mais moi, à la limite, c'est comme dans le football, tu vois. Aujourd'hui, on parle des pros. Dans le football, moi je dis, c'est les clubs amateurs. Je tire mon chapeau. Et les bénévoles. Je tire mon chapeau aussi. Respect, le plus grand respect. Et je reviens sur la maladie. On parle de ma maladie, mais qui c'est qui m'a supporté ? C'est pour ça que je m'en sors. c'est qu'il y a ma femme, ma fille. Il y a Patrick Battiston. Et ce sont des gens qui...
Le monde du foot a été à côté de toi ?
J'en ai pas parlé.
J'allais te poser la question.
Non, ils ne savaient pas. Il y en a même qui m'ont dit...
C'est une question de pudeur, c'est une question de...
Ouais, parce qu'on vit dans un monde où il t'arrive quelque chose, les gens sont contents.
Oui, parce qu'on en a parlé en
l'heure. On en a parlé.
La compassion, et ça, c'est...
Et en fait, je ne voulais pas, en plus, je ne voulais pas me sentir faible. Je ne voulais pas me sentir faible. Et puis, par contre, j'ai une anecdote qui, quand même, qui m'a sauvé, je pense. À un moment donné, quand tu arrives, tu as une caméra qui te voit, ils ne te font pas attendre. Tout de suite, tu rentres dans ta salle. Ta salle. Ta petite room à 1m50 sur 1m50. Mmh. Tu te mets torse nu et tu te prépares pour mettre ton casque. Et là, il y a un jour, j'ai vu un article. Un joueur de football, il dit, moi, j'étais très violent sur le terrain, mais j'ai jamais blessé un joueur. Ah ouais ? Tu m'as oublié ? Carlos Moser, il sort ça à Marseille. Et en fait... une fois de plus, c'est comme sous la douche, bizutage. Je me dis quoi ? T'as blessé personne ? Mais t'as oublié que moi, pendant un an, j'ai pas pu jouer. Pendant un an, il m'a mis le pied. En fait, en Coupe de France, on joue Cannes, Olympique de Marseille. Je monte à la tête et je mets les coudes. Je lui pète l'arcade. Bernard Tapie me voit à la mi-temps des prolongations. Il me dit : Carlos, il va te tuer. Qu'est-ce qu'il va me tuer ? J'ai jamais eu peur. Et je jouais toujours, je sautais toujours quand je voyais le joueur. Quand il était à droite, je le touchais. Quand il était à gauche, je le touchais. Mais jamais derrière.
Il n'y avait pas la VAR à l'époque.
Et là, il se met derrière. Mmh. Il me met le pied sur la cuisse, il m'arrache. Un an sans jouer. Et je reviens à ma maladie. Ça, Carlos, je vais gagner. Je suis allé comme si je l'affrontais sur le terrain. Pareil. J'ai dit, c'est moi qui vais gagner. Mais j'étais en transe. Le gars, il me parlait, et le médecin, je répondais, oui, bonjour, j'étais poli. Mais j'y allais, j'ai dit, mais attends. Et là, je vais dire, je le revis, la scène. Et tous les jours, à la radiothérapie, j'y allais. Et je dis, c'est moi qui vais gagner. C'est moi qui vais gagner. À un moment donné, je me suis vu dans la glace. J'ai dit, je peux plus. J'avais perdu 32 kilos. J'en pouvais plus. Là, j'ai dit, je m'en sortirai plus. J'avais 3 jours, je ne mangeais pas, plus rien. Et là, tu as tes proches. C'est grâce à eux, c'est grâce à ma femme, ma fille. Donc, je le répète, et merci. Battiston, qui a été exceptionnel. Et là, à un moment donné, tu te regardes dans la glace, tu dis, oh, stoppira, oh, tu as tiré le pénalty, France-Brésil. Eh bien, tu vas continuer. Et là, j'étais sûr de gagner. Et là, bon, les tests sont positifs, et voilà.
Oui. C'est une guerre, on en a parlé un petit peu en off, puisque bon, je l'ai raconté, j'étais aussi victime de ce problème-là, mais moi, j'étais pas un homme avec ta notoriété, donc ça passe crème, on va dire ça comme ça, mais quand on est, comme toi, un homme de connu, quoi, on n'a pas l'impression que les gens, c'est plutôt de la compassion, c'est « Oh, le pauvre, qu'est-ce qui lui arrive, pas à lui ?» Tu vois ?
Bah, ouais, et puis, déjà, le mot « cancer », moi, je pouvais pas le dire.
Oui, c'est
déjà rien que le mot de l'affronter, ce mot. Je pouvais pas.
Mot interdit, mot tabou, on n'ose pas, quoi.
On n'ose pas.
Mais tabou peut-être pas, parce que comme les Yannick, ben moi quand on m'a dit voilà, vous avez ça sur la corde vocale, ben, tu peux pas faire autrement. Hein.
Alors,
tu l'as. Hein.
Tu sais, il y a des gens qui m'ont vu, j'étais énorme avant. Et puis ils m'ont vu malade. Et Yannick, qu'est-ce que t'as fait comme régime ? Comment t'as fait ?
Et t'as pas envie de leur dire ?
Si. Je lui dis, j'ai eu un cancer. Et ça les met dans un état, très mal à l'aise. En fait, je leur dis, mais ça y est, c'est le fait de l'accepter, je pense, pour pouvoir l'affronter, c'est aussi important. Pour moi, ça a été important.
Il nous reste 2 minutes, Mélissa, ou pas ?
Oui.
Je voulais juste te demander ton avis sur la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde de l'équipe de France.
Ouais. Je sais pas quoi dire.
Déçu ou...
Bah, ouais, quand tu fais une finale, il faut la gagner. Après...
Dans le contenu, on mérite de la gagner.
Je pense que le français, il est comme ça. Quand il est favori, il ne gagne pas. Quand il est en difficulté, il peut battre n'importe qui. C'est-à-dire que cette équipe, je pense que le... d'avoir le, en disant, vous vous rendez compte, il a tel joueur, tel joueur, tel joueur. Pour moi, on s'est mis dans une situation où on devait la gagner. Et à chaque fois qu'on dit ça, on ne gagne pas.
Ça tient
à
rien.
Paris Saint-Germain, on dit toujours ils sont favoris, mais ils n'y sont pas. Et je pense, avec tout le respect que j'ai, je pense que le français doit être toujours en difficulté pour pouvoir se dépasser.
C'est ce qui nous a fait gagner les guerres. Merci Yannick.
Medina Telfen Porto.
Campus Bordeaux.
Et on arrive déjà à la fin de ce Sport Campus. Est-ce qu'Alain, tu as des annonces à nous faire pour la semaine prochaine ?
Pour mercredi prochain, on va parler avec des papis. On va parler du sport chez le troisième âge. On aura un boxeur, un pétanqueur et un footballeur.
Et en tout cas, un grand merci Yannick Stopira d'être venu sur notre antenne, d'avoir répondu à nos questions. C'est à présent la fin de ce Sport Campus.